Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle Piana, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Vous souvenez-vous de Jackie, vous savez Jackie, Récréa 2, le club Dorothée, les enfants du rock. Eh bien figurez-vous qu'il a travaillé pendant 8 ans pour et avec Serge Gainsbourg. Alors en ce jour anniversaire de la disparition de l'artiste, 30 ans déjà, Jackie viendra nous raconter comment ça se passait, nous raconter le Gainsbourg du quotidien, rendez-vous à 18h35. Avant cela, à 18h15, on parlera réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement a décidé de passer en force face au front uni des syndicats. Le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, nous a réservé sa toute première réaction. Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres d'actualité de ce mardi 2 mars.
La droite et le Rassemblement National comme un seul homme pour défendre Nicolas Sarkozy après sa condamnation. Les restrictions face à l'épidémie, pas d'allègement selon Jean Castex. Olivier Véran, lui, croise les doigts. On va tenter de comprendre ce que le gouvernement a derrière la tête. Et puis, Cocorico, la voiture de l'année, elle est fabriquée en France, dans le Nord, c'est la Toyota Yaris.
La météo, bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Cocorico, les coqs vont encore chanter demain, encore une belle journée ou pas?
Exactement, oui, avec du soleil sur la majeure partie du pays, alors parfois
voilé. Est-ce que les coqs chantent quand il fait moche? C'est ça la question.
Mais bien sûr, toujours.
Bon, d'accord.
Soleil parfois voilé, mais rien de bien méchant, vous inquiétez pas. Un peu nuageux sur le Roussillon, comme aujourd'hui, et puis ça se gâte. En revanche, sur le Nord-Ouest, un ciel nuageux, des averses qui arrivent, voire un coup de tonnerre sur la Haute-Normandie dans l'après-midi, tout ça sous des températures qui seront un peu fraîche encore le matin. Il faudra se couvrir de 0 à 9 degrés, mais très douce l'après-midi, de 12 au Havre à 20 à Bordeaux, 17 à Paris et Marseille.
Merci Peggy. Et ben voilà.
RTL Soir.
Allez, on commence avec une astuce étonnante. À quoi pourrait ressembler votre voix si vous étiez sur la planète Mars? C'est la question que s'est posée la NASA. Son rover Perseverance vient d'arriver sur la planète rouge. Il est doté d'un micro. Sophie Jousselin, l'agence spatiale américaine, a mis au point un site internet pour que chacun puisse faire le test. Et il y a vraiment une grosse différence.
Et oui, parce que les deux planètes n'ont pas la même atmosphère. Elle est 100 fois moins dense sur la planète rouge et elle est composée presque exclusivement de dioxyde de carbone, de CO2, pour faire plus simple. Cela donc affecte la qualité sonore de la voix. Bien le mieux pour s'en rendre compte, c'est d'y aller.
1. Décollage.
Voilà, je viens de me poser et vous l'entendez, ma voix n'est plus du tout la même, elle est beaucoup plus feutrée, plus sourde. Alors c'est pas du tout dû à la distance, mais à la faible densité de l'atmosphère, les sons se déplacent moins bien. Résultat, le timbre de ma voix est plus faible, porte moins loin. Et ce côté un peu étouffé, c'est l'effet dioxyde de carbone qui absorbe les sons les plus aigus.
Voilà, me voilà déjà de retour sur la planète bleue. Et si sur
vous
notre...
faites vite le voyage.
Oui,
quand
je suis
même,
assez hein. Rapide, ouais. Beaucoup plus rapide que la NASA. Sur cette bonne vieille Terre, hein, si les oiseaux chantent agréablement à nos oreilles, sur Mars, à supposer qu'il y en ait, même à quelques dizaines de mètres de nous, leur gazouillis serait imperceptible.
Donc si on se parlait sur Mars, on s'entendrait comme vous tout à l'heure là.
Oui, et on s'entendrait pas bien.
On s'entendrait pas
tout
bien.
Tout étouffé, bon, on peut faire pour vous garder les pieds sur
on
Terre.
On est mieux
hein,
ici.
Sophie.
Ouais.
Sophie Jousselin pour RTL.
Au lendemain de la condamnation de Nicolas Sarkozy, les plaidoiries ont continué cet après-midi. Plaidoiries politique dans les rangs de l'Assemblée.
Oui, sur le plan judiciaire, l'ancien président a fait appel du verdict d'1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Et sur le plan politique, Nicolas Sarkozy s'est trouvé de nombreux avocats parmi les députés, que ce soit à droite ou même au Rassemblement National, Vincent Derosier.
Oui, l'indignation n'est toujours pas retombée. D'ailleurs, à l'Assemblée, le groupe LR a symboliquement utilisé sa première question au gouvernement pour défendre Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais aussi pilonner le procureur national financier, Jean-François Bonnaire, interrogé ce matin sur RTL.
Non, monsieur Bonnaire, la décision rendue ne prouve pas votre indépendance, parce que vous n'êtes pas indépendant.
Vous le savez, il est interdit de commenter une décision de justice, d'autant qu'elle n'a pas encore connu son épilogue.
Pas de surprise, Éric Dupond-Moretti ne commande pas, qu'importe, la droite poursuit son offensive, bien aidée depuis hier par le Rassemblement National et Marine Le Pen, qui vole même à la rescousse de Nicolas Sarkozy pour 2022.
Si Nicolas Sarkozy souhaite être candidat, je te conseille vivement d'être, même malgré cette condamnation. Parce que je pense que ça n'est pas au juge de décider qui est candidat à la présidentielle. Nous sommes dans le cadre d'un gouvernement des juges et il est évident qu'on ne peut pas l'admettre.
Et dans les couloirs de l'Assemblée, certains députés attendent désormais un signe d'espoir de leur ancien leader, Nicolas Sarkozy, soutenu par sa famille politique, qui se défendra lui-même demain soir à 20h sur TF1.
Vincent de Rosier à l'Assemblée nationale pour RTL. Sur l'épidémie de Covid-19, ce n'est pas le moment d'envoyer des signaux d'allègement, déclaration du Premier ministre Jean Castex. Pendant ce temps-là, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est allé constater la situation dans un hôpital de la région parisienne aujourd'hui, accompagné notamment par le patron de la PHP, Martin Hirsch. Le constat des médecins est véritablement inquiétant.
La demande est très très forte, très soutenue depuis 48 heures. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait à peu près 35 malades Covid sur l'ensemble de Saint-Louis, on en a 57 ce matin. Donc ça vous donne une idée de la progression, que ce soit sur l'hospitalisation complète ou les soins critiques.
Donc près de 400 malades en 24 heures qui rentrent dans les hôpitaux d'Île-de-France.
Voilà des propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Situation également inquiétante à La Réunion qui va procéder à une première évacuation vers la métropole cette semaine pour désengorger les hôpitaux de l'île.
Alors d'un côté, il y a des hôpitaux saturés, Alexandre, et de l'autre, il y a un gouvernement qui hésite à reconfiner. On pourrait même ajouter qu'au milieu, il y a nous qui sommes complètement paumés.
Oui, ça c'est sûr, même si Emmanuel Macron encourageait hier encore à tenir entre 4 et 6 semaines. L'Élysée assure qu'il n'y a pas de calendrier sur l'allègement des restrictions. Hier soir, le ministre de la Santé ne s'est pas risqué à faire des prévisions. On croise les doigts, a déclaré Olivier Véran. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Une stratégie du gouvernement qui devient de plus en plus difficile à interpréter.
Oui, et en même temps, Alexandre, je crois qu'on comprend quand même beaucoup de choses dans ces mots du ministre de la Santé que vous venez de rappeler. Quand on croise les doigts, c'est quand même le signe qu'on n'est pas totalement maître de son destin. La réalité du virus rattrape l'exécutif. D'un côté, donc, ces chiffres qui s'aggravent fortement, particulièrement, on le sait, dans une vingtaine de départements. Et puis de l'autre, les restrictions qui sont de moins en moins acceptées par la population parce que ça fait quasiment un an que ça dure. Le métro, boulot, dodo devient insupportable, résume un conseiller ministériel. Alors le gouvernement tente de montrer qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Le retour des beaux jours, l'accélération de la vaccination doivent normalement freiner le virus, mais ça c'est à moyen terme. Et avant ça, nous avons un mois de mars très difficile devant nous, explique un élu de la majorité. Les mesures actuelles peuvent-elles être suffisantes pour tenir et pour passer ce mois de mars? Ce sera le cœur du Conseil de défense demain matin à l'Élysée. Pour résumer, à minima, le couvre-feu va encore durer plusieurs semaines. On peut peut-être encore serrer la vis dans certains départements avec des confinements le week-end, comme on l'a déjà vu. Mais si les chiffres dérapent trop, il y aura un reconfinement, nous confiait tout à l'heure un ministre.
William Galibert du service politique de RTL.
On marque une pause et dans un instant on va à Bordeaux où des policiers ont dû tirer des coups de feu sur une grosse berline. Au volant, un adolescent de 16 ans.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h08, la suite du journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Il conduisait une voiture de location. Un adolescent de 16 ans a donc été blessé par balle hier à Bordeaux.
Oui, hier soir vers 23h, les policiers tentent de stopper une puissante voiture de sport. Refus d'obtempérer, ils ouvrent le feu. Et la situation a failli virer au drame, Philippe Demaria.
Exactement, et de sources proches de l'enquête, on nous dit qu'il est stabilisé ce soir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être entendu, ce chauffeur, par les enquêteurs. Il est mineur, hier soir il est au volant d'une Audi RS3, et sur les quais, un équipage de police secours le prend en chasse. On est en plein couvre-feu, mais il accélère. Un fourgon de la compagnie d'intervention se met en travers de la chaussée. L'Audi le percute, les trois policiers qui sont descendus du fourgon font face au véhicule qui s'échappe. Les trois fonctionnaires font usage de leur arme. Le pilote est blessé et transporté à l'hôpital. Un passager a été interpellé, un autre court toujours. Écoutez Philippe Dosba du syndicat Alliance qui s'inquiète de la multiplication des refus d'obtempérer.
On a un phénomène là de société qui fait que les gens pensent pouvoir se soustraire à des contrôles comme ça. Et advienne que pourra si ça se passe pas bien. Quoi. Et ça peut mal tourner.
Et une enquête est ouverte par la PJ de Bordeaux pour tentative d'homicide sur les forces de l'ordre. Une autre par l'IGPN pour l'usage des armes par les trois policiers.
Le récit de Philippe Demaria pour RTL. Une ascension qui risque de leur coûter cher. Quatre jeunes d'une vingtaine d'années ont été interpellés alors qu'ils tentaient de grimper à main nue sur l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Ils risquent jusqu'à 1 500 € d'amende chacun. Leur procès aura lieu à l'automne prochain. C'est devenu une arlésienne à cause de la crise sanitaire. La réforme de l'assurance chômage devrait finalement entrer en vigueur partiellement à partir de cet été. Un texte très contesté par les syndicats. Pour ne pas trop les brusquer, le gouvernement veut relancer la machine étape par étape. Éric Vanier.
Oui, le gouvernement tient vraiment à sa réforme. Il va donc la réactiver. Mais vu le contexte, en prenant son temps et en installant des garde-fous. La situation sanitaire et économique étant encore beaucoup trop tendue, les mesures envisagées ne s'appliqueront pas avant cet été. Et encore, certaines d'entre elles seront conditionnées à une amélioration du marché du travail. Par exemple, le durcissement des conditions d'accès à une indemnisation, ça ne se fera pas tant que l'économie continuera à détruire des emplois. Idem pour la dégressivité des allocations les plus élevées. Elle devait baisser au bout de 7 mois de chômage, ce sera finalement 9 mois, tant que la conjoncture ne sera pas meilleure. S'agissant du nouveau mode de calcul des indemnités qui pénalisera certains chômeurs, le gouvernement va créer une sorte d'édredon, un plancher en dessous duquel l'allocation ne pourra pas descendre. Enfin, la taxation des contrats courts, rien ne presse à décider le ministère du Travail. Il y aura d'abord une longue période d'observation des entreprises qui ne paieront rien au plus tôt avant septembre 2022. Et hors de question, bien sûr, de réclamer pour l'instant quoi que ce soit au secteur d'activité à l'arrêt, comme l'hôtellerie-restauration.
Éric Vanier du service Éco de RTL. Dans quelques minutes, on va en reparler avec François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, puisqu'il sera l'invité d'RTL Soir à 18h15. On termine avec la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh oui, figurez-vous que la voiture européenne de l'année, eh bien, elle est fabriquée en France. Alors d'accord, bon, oui. Toyota, c'est un constructeur japonais.
C'est ça, c'est une Toyota quand même.
Ouais, mais la Yaris, elle sort depuis 20 ans de l'usine d'Onin dans le Nord. Ce nouveau titre, bah, c'est une vraie fierté pour les près de 5000 salariés, Franck Hanson.
Oui, la nouvelle s'est vite répandue sur les chaînes de montage où est assemblée depuis plus de 20 ans. Maintenant, cette voiture qui a su évoluer, c'est une belle reconnaissance pour ces salariés nordistes.
On est vraiment très très fiers, en plus avec le contexte de lancement qui a été particulier pour nous. Avec la crise sanitaire, le rythme de travail est assez élevé, c'est sûr, mais il faut ce qu'il faut pour faire des bonnes voitures et de la qualité, etc.
Quand on voit la voiture qui est faite, esthétiquement, tout ça, on n'a pas de soucis. On est très content, on est tranquille pour des années.
À l'arrêt pendant 5 semaines l'an dernier, pendant le premier confinement, l'usine valenciennoise a su rapidement redémarrer avec de nouvelles règles sanitaires. Avant un nouveau véhicule prévu cet été, cette Yaris 4 promet encore de beaux jours, selon Jean-Christophe Deville, vice-président Toyota Motor.
Évidemment, en termes de vente, c'est des bons signes. On est sur des tendances aujourd'hui à la hausse et puis ça nous donne aussi confiance sur la préparation de l'avenir. On continue les recrutements. Ça peut sembler aller un petit peu à contre-courant du reste de l'industrie de l'économie, mais aujourd'hui, pour nous, les planètes sont bien alignées.
Face à l'afflux de commandes, cette voiture de l'année, victime de son succès, sera bientôt également fabriquée en République tchèque. Les syndicats restent vigilants, mais pour l'instant, l'activité ne manque pas.
Franck Hanson dans le Nord pour RTL. Et puis on vient d'apprendre le décès d'une légende jamaïcaine du reggae, Bunny Wailer.
Oh bon,
son nom ne vous dit peut-être rien, mais son groupe peut-être un peu plus.
Oh bah si.
C'est The Wailers, bah c'est, oui. C'est le groupe qui accompagnait Bob Marley. Bunny Wailers, il avait 73 ans. In the heart of America, stolen from Africa.
Fait du bien.
Ça pose.
Allez, merci beaucoup à vous Alexandre, on vous retrouve
avec
tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres.
À tout à l'heure.
Dans un instant, c'est donc François Asselin qui est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Les syndicats n'en voulaient pas, mais le gouvernement ne les a pas écoutés. La réforme de l'assurance chômage qu'il présente comme adoucie entrera bien en vigueur progressivement à partir du 1er juillet. Bonsoir François Asselin.
Bonsoir Thomas Soto.
Vous êtes donc le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Cette réforme un peu corrigée par rapport à sa version initiale, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle convient à la CPME?
Alors, il faut savoir d'abord d'où on partait, parce que cette réforme avait été imaginée à un moment où le marché de l'emploi n'est évidemment pas celui que nous connaissons.
Ça allait beaucoup mieux qu'aujourd'hui.
Ça allait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, effectivement, le meilleur régime assurantiel en matière de chômage, c'est celui qui indemnise correctement celui qui a un accident de parcours professionnel, mais qui en même temps le raccroche d'une façon dynamique au marché du travail. Or, on était à une époque où beaucoup d'entreprises cherchaient des compétences qu'elles n'arrivaient pas à trouver. Beaucoup de personnes étaient à Pôle emploi dans des secteurs qui embauchaient, qui recrutaient. Donc, il faut retrouver une dynamique, effectivement.
Ça veut dire qu'à l'époque, vous n'étiez pas hostile à cette réforme.
On n'était absolument pas hostile à cette réforme. Alors, il y avait simplement une partie sur laquelle nous étions hostiles et nous le restons. Les syndicats étaient hostiles aux mesures, effectivement, de recalcul des mesures indemnitaires. Et nous étions étions hostiles au bonus-malus, au système de bonus-malus.
Bonus-malus, pour dire les choses simplement, c'est un système qui fait que les entreprises qui abuseraient, entre guillemets, des contrats précaires, des CDD, précaires, etc., seraient sanctionnées.
Seraient sanctionnées. Alors,
c'est reporté à septembre 2022.
Oui, mais pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous avez une
économie... Parce que c'est après la présidentielle, peut-être ?
Oh, je ne pense pas. Vous savez, l'économie est à l'arrêt. Donc, pour pouvoir faire cette mesure, il faudrait tourner une année à plein régime pour savoir quel est l'impact. Or, aujourd'hui, étant donné que nous sommes à l'arrêt et que nous n'allons pas repartir du jour au lendemain, eh bien, il faut du temps pour appliquer cette mesure qui, de toute façon, ne réglera pas le problème, entre guillemets, de l'équilibre du régime.
Bon, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Globalement, est-ce que vous êtes satisfait de cette réforme ou pas, telle qu'elle est présentée par le gouvernement ?
Cette réforme, il faudra la faire pour les raisons que je vous ai expliquées, des raisons d'efficacité. Et puis, nous avions un régime quand même qui était déficitaire de l'ordre de 35 milliards d'euros. Dans une période où l'emploi était dynamique, nous continuions structurellement à produire de la dette. Donc, il faut retrouver des mesures d'équilibre. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une période où, bien évidemment, on ne peut pas appliquer immédiatement cette réforme compte tenu du fait que le marché de l'emploi n'est absolument pas dynamique. Mais le jour où il redeviendra dynamique, nous pensons effectivement qu'il faudra déployer cette réforme.
Donc vous dites que c'est OK pour nous à la CPME ?
Oui, parce que sur le fond, cette réforme, on en aura besoin pour des raisons tout à fait objectives. Vous savez, même une fois cette réforme appliquée, nous aurons en France un régime indemnitaire au niveau de l'assurance chômage qui restera le plus généreux d'Europe. Mmh. On n'a pas à rougir de la comparaison
avec
les
autres
pays européens.
Pardon Françoise, on aura le régime le plus généreux d'Europe, mais dans le quotidien des gens, ça veut dire qu'il y a près de 40% des chômeurs qui vont toucher moins parce que le calcul du salaire journalier de référence va changer la base sur laquelle on calcule les indemnités, ça fait plus de 800 000 personnes qui vont voir leur indemnisation baisser de 20% en moyenne par rapport à ce qui touchait avec les règles actuelles.
C'est pour cela, Thomas Soto, que le gouvernement a fait très attention de mettre des critères en place, objectif, pour déployer la réforme lorsque ces critères seront remplis. Mmh. Et finalement, ces critères correspondent à quoi ? Correspondent à une baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, de l'ordre de 130 000 sur une durée de 6 mois. C'est-à-dire que catégorie A, c'est ceux qui n'ont aucun emploi. Travail. Et puis, il faut que le marché du travail augmente de 2,7 millions d'emplois supplémentaires sur une période de 4 mois par rapport à aujourd'hui.
Donc autant vous dites qu'il y a des sécurités suffisantes pour que ça n'entre pas en vigueur avant qu'on soit dans la situation de...
On va mettre ces compteurs en place à partir du 1er avril. Donc, au maximum ou au minimum, tout dépend comment on prend la réforme, c'est à partir du 1er octobre 2021 qu'on pourrait appliquer cette réforme. Et finalement, l'intérêt de tout le monde, c'est que le plus rapidement possible, on retrouve un marché du travail dynamique et durable.
Bon, c'est pas du tout la tendance du moment. Y a un fait rare quand même, c'est que les 5 syndicats, CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, CFO, ont signé une tribune commune ensemble pour dire non à cette réforme. Vous dites quoi ? Qu'ils se trompent ces syndicats ce soir ?
Ces mêmes syndicats étaient tout à fait dans la même position en 2019 lorsque on a commencé à discuter avec le gouvernement de cette réforme qui serait appliquée en 2020.
Oui, parce qu'ils disent que c'est plus de précarité. Ils se trompent ?
Écoutez, tout dépend comment on voit les choses. Nous, ce que nous voyons en tant qu'employeur, c'est qu'il faut, lorsqu'on perd son emploi, être indemnisé d'une façon tout à fait correcte. Et ça sera toujours le cas. La seule différence, c'est que vous ouvrirez vos droits au chômage si vous n'avez pas, si vous avez cotisé pendant au moins 6 mois depuis les 24 derniers mois au lieu de 4 mois de cotisation. Ça reste encore, croyez-moi bien, au niveau européen, un des régimes les plus généreux, sinon le plus généreux.
Mais ça veut dire que le quoi qu'il en coûte actuel, en fait, on a l'impression qu'il ne s'applique pas aux chômeurs, que la crise, tout le monde se la prend en pleine figure et que là, on se dit, les chômeurs, ils peuvent bien faire un effort.
Je vous rappellerai simplement qu'aujourd'hui, vous avez quand même près de 6 millions de personnes qui sont plus ou moins indemnisées en France au moment où on se parle. Vous en aviez au mois de décembre 2020, 2,4 millions de salariés qui étaient indemnisés au chômage partiel. C'est quand même pas rien. C'est un choix que nous avons fait récemment qui n'avait pas été celui de la crise de 2008-2009 où il y avait beaucoup de licenciements directs au niveau économique. J'espère que nous allons retrouver le plus rapidement possible un marché de l'emploi dynamique. C'est la seule réponse qu'on peut apporter à cette réforme. Et si jamais ça n'arrivera pas, cette réforme ne sera pas mise en application.
Elle n'entrera pas en vigueur. François Asselin, vous étiez dans ce studio d'RTL Soir le 14 janvier dernier et vous demandiez que les entreprises puissent regrouper et étaler leurs dettes sur 10 ans. Quelques jours après, toujours à cette même place où vous êtes ce soir, il y avait Bruno Le Maire à qui j'avais posé la question, qui avait dit qu'il allait regarder la question. Depuis, il s'est passé quoi ?
Ah, vous avez bonne mémoire, Thomas Soto. Effectivement, on a toujours beaucoup échangé avec Bruno Le Maire sur cette question. Nous n'arrivons pas à débloquer la mesure que nous attendons, à savoir pouvoir étaler effectivement l'ensemble des dettes d'une entreprise sur une durée plus longue que celle du prêt garanti par l'État. Parce que malheureusement, si on ne fait rien, vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont viables, qui étaient viables avant, qui ne pourront pas redémarrer parce qu'elles ne pourront pas faire face à leur mur de dette. Alors il ne s'agit absolument pas d'arroser sur le sable, mais trouver des moyens de rebondir à ceux qui en ont vraiment besoin. Mmh. On va par contre aborder cette semaine, dès jeudi matin avec Bruno Le Maire, les prêts participatifs actifs. Et ça, ce sont des éléments très intéressants pour permettre aux entreprises d'abonder en fonds propres quelque part, au-delà de leurs dettes, de pouvoir réinvestir pour balayer le plus rapidement possible.
Mais sur l'étalement de la dette sur 10 ans, vous n'avez pas de réponse pour l'instant.
On n'a pas de réponse pour l'instant. Vous savez, alors en plus, on aurait des raisons objectives de l'obtenir, puisqu'en Allemagne, ils ont obtenu le fait de pouvoir l'étaler sur 8 ans, l'équivalent du prêt garanti par l'État. Pourquoi n'arriverions-nous pas en France d'avoir les mêmes dispositifs qu'en Allemagne ?
Le confinement du week-end, François, cela en vigueur dans une partie des Alpes-Maritimes et dans la région de Dunkerque, pourrait être élargi très vite. On parle notamment de l'Île-de-France, peut-être dès le week-end prochain. Est-ce que ce serait tenable pour les PME ?
Oh, c'est très compliqué, ça l'est déjà aujourd'hui. Si vous resserrez encore les mesures de confinement, eh bien, pour certains pour qui c'est compliqué aujourd'hui, ça va devenir impossible. Donc, écoutez, il faut être tout à fait clair, très objectif. Plus on va resserrer les mesures sanitaires, plus vous verrez la sinistralité des entreprises monter en flèche.
Vous dites quoi ? Il ne faut pas reconfiner le week-end ?
Le seul problème, voyez-vous, ce qui est terrible, c'est que je ne sais même pas quoi dire, puisque en matière sanitaire, je n'ai aucune compétence. Oui. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus, avec cette pandémie, parce que si on s'arrête de vivre, là, c'est sûr, on va tous y passer.
Combien d'entreprises en péril aujourd'hui dans les PME ?
Alors, on estime, on avait fait une enquête mi-janvier, et on estime à peu près aujourd'hui entre 80 000 et 100 000 entreprises qui risqueraient, sur 12 mois glissants, eh bien, de déposer le bilan.
De disparaître. Entre 80 et 100 000.
Entre 80 et 100 000, sachant qu'en une année normale, c'est aux alentours entre 50 et 55 000. Donc la sinistralité va augmenter, mais c'est tout à fait compréhensible, hein, vous savez. Elles ont été soutenues par les mesures, entre autres le prêt garanti par l'État, les reports de charges. Donc lorsqu'on va débrancher ces mesures, eh bien, il y aura la sinistralité qui va monter en flèche.
Donc il faut tout faire pour éviter d'un point de vue économique le confinement du week-end.
Ben, il faut tout faire d'un point de vue économique, bien sûr, bien évidemment, d'éviter le confinement du week-end. Ce qu'il faut aussi imaginer, c'est qu'il faut tout de suite mettre en place des mesures qui puissent sauver individuellement des chefs d'entreprise, parce que ce sont des travailleurs non salariés, des indépendants. Mmh. Et là, ça risque pour eux d'être une catastrophe personnelle, parce qu'au-delà de la perte de son entreprise, lorsqu'il ne vous reste que des dettes, et bien là, c'est catastrophique. On a fait 11 mesures que nous avons proposées à l'exécutif. J'espère que sur ces 11 mesures, il y aura au moins 3 mesures très claires, à savoir ne pas être inscrit au fichier des incidents de paiement, traiter le problème des cautions personnelles, et puis faire en sorte, et bien, tout simplement, que la dette sociale de l'entreprise soit fasse partie de la liquidation, parce que sinon, parfois, plus d'un an après, on vient le rechercher à titre personnel pour payer ses dettes.
Le gouvernement appuie beaucoup sur le télétravail. Hein. Est-ce qu'on en demande trop aujourd'hui aux PME sur le télétravail ?
On en demande trop à tous les Français, mais on doit faire avec. On n'a pas le choix.
Alors, on doit faire avec, mais il y a cette contrainte économique qu'on ne peut pas oublier ou mettre de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la survie des entreprises dont vous nous parlez, il faut desserrer les taux sur le télétravail ?
Non. On arrive aujourd'hui à s'organiser en travaillant d'une façon distancielle, par rapport au siège de l'entreprise, par rapport à l'endroit où on travaille. Bien évidemment, il y a des métiers où ce n'est pas possible. Hein. Quand on doit pétrir le pain, il faut être au fourneau, au fournis plutôt. Donc quand on doit travailler sur un chantier, il faut être sur le chantier. Mmh. Pour autant, tous les métiers tertiaires ou les métiers qu'on appelle support dans les entreprises, là où effectivement, on peut les mettre en télétravail. Et il faut les mettre en télétravail, c'est très important. Et d'ailleurs, on apprend tous, finalement, employeurs comme salariés, à s'organiser autour du télétravail. Donc je ne suis absolument pas pessimiste par rapport à ça. C'est une expérience incroyable que nous avons tous vécue collectivement. J'espère qu'il en sortira le meilleur pour tout le monde.
La ministre du Travail a dénoncé quelques entreprises. Elle a donné des noms de boîtes qui ne jouent pas le jeu. La Massif, la Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole. Sur la méthode, c'est une bonne chose comme ça de dénoncer publiquement ? Vous êtes à l'aise avec ça ?
Il n'y a pas beaucoup de PME dans ce que vous venez
de
citer.
Non, on est bien d'accord.
Oh, écoutez, c'est comme en matière de délai de paiement, on peut le regretter, mais c'est souvent ce qu'on appelle le name and shame, quand on dénonce, qui malheureusement fonctionne. Donc on peut le regretter, mais en même temps, c'est assez efficace.
Une dernière question plus politique pour finir, François Asselin. On s'agite beaucoup en ce moment autour d'une éventuelle revanche en 2022 de la présidentielle de 2017 avec une affiche qui serait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Si Marine Le Pen était au second tour, est-ce que la CPME appellerait à lui faire barrage ?
Vous savez, quand un syndicaliste fait de la politique, il arrête de faire du syndicalisme.
Ce qui fait Vous n'aviez pas pris position en 2017 ?
On n'a absolument pas pris position.
Contrairement aux autres syndicats.
On n'a absolument pas pris position. On est dans une neutralité parfaite. Et pourquoi ? Parce que mon rôle, c'est d'être en dialogue avec l'ensemble de l'échiquier politique. C'est ce qu'attendent les entreprises et les entrepreneurs.
Donc ça ne sera pas votre question, ce ne sera pas votre sujet ?
Ça ne sera pas notre sujet.
Merci François Asselin d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci à vous.
Merci à vous.
À suivre, l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir,
oui,
Philippe.
Bonsoir.
Alors vous, en tant que professeur Cavrivière, vous allez nous parler de l'étude de l'Institut Pasteur qui prévoit une troisième vague en mars.
L'Institut Pasteur, Thomas, c'est bien les mêmes tocards qui n'ont pas réussi à trouver un vaccin alors que les requins en ont déjà sorti 3. Bon, ben vous pouvez réserver vos vacances à Cancun. Si Louis Pasteur, Loulou, était toujours vivant avec cette bande de bras cassés, il aurait dit « je ferme le labo, je fais un PMU ». Il aurait eu raison, Loulou.
Vous n'êtes pas prêt de vacciner, vous. Allez, à tout de suite après le rappel des titres.
RTL Soir.
18h30.
RTL Soir avec Thomas Soto
et Alexandre de Saint-Aignan pour le rappel des titres.
Situation sanitaire inquiétante à La Réunion. Les hôpitaux sont saturés à cause de l'épidémie. Des premiers patients seront transférés en métropole cette semaine. Nouvelle étape en direction d'un quatrième vaccin, celui de Johnson & Johnson, est actuellement étudié par l'Agence européenne du médicament. Elle doit rendre son verdict la semaine prochaine, le 11 mars. Il faut tout faire pour éviter un confinement le week-end. Déclaration de François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il était l'invité d'RTL Soir. Plus on va resserrer, plus on risque d'avoir des sinistrés, je cite. Et puis au sujet de la réforme de l'assurance chômage, il faudra bien finir par la faire, a déclaré François Asselin. À Marseille, alors que le nouvel entraîneur Sampaoli vient d'arriver, le club phocéen annonce avoir trouvé un accord avec son prédécesseur André Villas-Boas. Son contrat a finalement été résilié à l'amiable. Le coach portugais avait annoncé sa démission fracassante en pleine conférence de presse.
Merci Alexandre. La météo pour demain, Peggy, ça sera le contraire de Cavrivière, ce sera doux.
Il n'est pas doux, Cavrivière. On va quand même se couvrir le matin parce que, comme aujourd'hui, ça restera frais entre 0 et 9 degrés, mais c'est clair que l'après-midi, on attend jusqu'à 20 degrés à Bordeaux, 18 à Montélimar et Lyon, 17 à Paris et Nancy, 13 degrés à Cherbourg. Côté ciel, encore bien ensoleillé sur les trois quarts du pays, seul bémol sur un quart nord-ouest avec l'arrivée d'une perturbation qui va gagner la Vendée le matin, l'ouest de la région parisienne au fil des heures. Un ciel nuageux, des averses, voire un coup de tonnerre vers la Haute-Normandie.
Merci Peggy. Ah, Philippe Cavrivière.
Ah,
l'œil de Philippe, tous les mardis, tous les jeudis. Vous vouliez commencer avec la question qu'on se pose tous. Comment garder le moral alors qu'on annonce des reconfinements locaux, une multiplication des variants et des services de réa de plus en plus surchargés?
C'est pas simple, Thomas.
Certes.
Le mois de mars a à peine démarré. On sait déjà qu'il sera pourri. Bon, la super nouvelle, c'est qu'on est déjà le 2. Ça passe à une vitesse, plus de 29 jours. Non, c'est vrai qu'on est dans le dur. Oui. Les raisons d'être optimiste se comptent sur les doigts de la main de Philippe Croizon.
Oh non,
enfin,
il n'a pas de bras.
Ça pourrait être pire, ben c'est pour ça. Bah oui. Enfin, ça pourrait être pire, on pourrait être Nicolas Sarkozy.
Ah, très bonne transition, parlons de Nicolas Sarkozy. Il a été reconnu coupable de corruption, de trafic d'influence. Le verdict, enfin le jugement plus exactement, est de 1 an ferme et c'est sa première condamnation.
Oui, seulement sa première condamnation. À 66 ans. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Eh ben, il s'est accroché, il y a cru, il a été la chercher. C'est une belle leçon de persévérance pour tous les jeunes qui nous écoutent. Faut jamais baisser les bras, faut croire en ses rêves. Puis un enferme, ça va, c'est pas non plus. Ça correspond à quoi ? En durée, c'est à peine 2 confinements. On vient de la passer aussi en semi-liberté cette année. On n'en est pas mort. Enfin, pas tous.
Oui, quand même, oui. Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent ce jugement sévère, Philippe.
Oui, donc là, c'est au juriste que vous parlez.
Oui, le maître.
Oui, c'est vous qui avez précisé.
Laissons le professeur Cavrivière à interroger le maître Cavrivière.
J'ai plein de casquettes. C'est vrai que c'est moche ce qui arrive à
une
Nicolas Sarkozy.
Tête.
Il est pourtant avocat, comme quoi ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mmh. Cela dit, il y a un bel élan de solidarité autour de Nico. Tout le monde a défendu l'ex-président. Il y a Carla Bruni qui a dit un gentil mot. Mmh. Il y a la sœur de Valéria Bruni-Tedeschi qui a parlé aussi. Mmh. Il y a l'ex-compagne de Raphaël Enthoven, l'ex-compagne de Jean-Paul Enthoven, l'ex-compagne de Louis Bertinet. Il y a plein de monde
qui l'a défendu. C'est la même.
Alors, je ne dis pas que certaines personnes ne sont pas réjouies en catimini, mais chez Mediapart, on a su conserver une réserve toute journalistique. Ah, on sait rire chez Mediapart.
Ils écoutent la queue-le-le chez
c'est
Plenel.
C'est Plenel qui menait la chenille. Moustache, c'est pas le dernier pour la bamboche.
Bon, alors, attention toutefois, et rebouchez peut-être le champagne hein, chez Mediapart. Nicolas Sarkozy a fait appel de la décision de justice. Il est présumé innocent. Son appel est suspensif.
Oui, au pire, la peine sera aménagée. C'est Nicolas Sarkozy qui fera les 2 ans de sursis et Paul Bismuth qui fera l'année ferme. Ils s'arrangeront, ils parleront tous les deux, ils trouveront un deal. Tiens, parenthèse, c'est quand même con d'avoir vacciné un mec qu'on va enfermer. Bon, un vaccin de foutu. Et au passage, je vous livre une petite indiscrétion de Jean-Alphonse Richard.
Oui.
Il paraît que Nicolas Sarkozy avait prévu de se faire tatouer le plan de la prison comme dans Private Break. Malheureusement, vu l'espace dont disposait le tatoueur, il n'y a que le plan de la cellule qui rentrait entre les omoplates, donc ça ne servait à rien. Et puis, sur la journée d'hier, ce qui est arrivé de pire à Nicolas Sarkozy, ce n'est pas sa condamnation.
Non.
Non, le vrai drame est arrivé sur le coup des 19h48 sur cette antenne.
Oui.
Thomas S., ou peut-être devrais-je dire Thomas Sarkozy, nous a livré une de ses imitations
yeah,
dont il a le secret.
L'écologie, ça commence à bien faire.
On va réécouter, c'était une tentative de Sarkozy.
L'écologie, ça commence à bien faire.
On ne sait pas ce que c'est. Ça mérite de la prison ferme.
Ça, c'est vrai.
On dirait Rogène.
Et je ne ferai pas.
L'écologie, ça commence. Ça n'a rien à voir.
Je ne ferai pas appel. On continue avec cette bombe lâchée par le chef de l'État en réponse à un étudiant qui lui demandait de reculer le couvre-feu à 19h. Emmanuel Macron a répondu qu'il fallait tenir 4 à 6 semaines.
D'accord. Mais 4 à 6 semaines, pourquoi ? Pour passer le couvre-feu à 19h. Donc en gros, dans un mois et demi, on gagnera une heure. Mmh. Ah ben merci, ça s'appelle l'heure d'été. Il est en train de nous vendre l'heure d'été. Peggy aurait très bien pu le faire, c'était pas la peine d'être président.
En tout cas, le chef de l'État refuse encore et toujours de reconfiner le pays, Philippe.
Emmanuel Macron déteste l'idée de confinement. Même le mot, il essaie de l'éviter. Résultat au gouvernement, ils en cherchent d'autres. Du coup, en ce moment, à l'Élysée, on joue à... Pyramide, question moderne.
De briques.
Allez, essayez Thomas de me faire deviner le mot comme au gouvernement en 3 briques.
Ok, alors je commence. Fermeture.
Obturation.
Contrainte maximale.
Emprisonnement.
Non. Solution radicale.
Je l'ai. Confinement.
Oui.
Oh, c'est pas toujours facile de tourner autour du pot. Bravo Thomas, Vous étiez parfait en Laurent Broumède. Ouais. Je me trouvais pas mal en Marie-Ange Nardi.
Il y a quelque chose.
Ou Marie-Ange Mardi, si vous aimez les jeux de mots de qualité, comme Jeanne Charal.
Voilà. Oui.
Comprenne qui veut.
On va dire, elle s'est vexée sur une vanne
de
samedi soir.
De qualité. Je pense qu'on était au-dessus des proches et Woody Allen.
Non, faut pas
Jeanne Charal, Jeanne Charal.
Ouais.
On avait bossé 6 heures sur cette vanne. Pour un résultat.
J'espère que vous n'êtes pas payé à l'heure. Un mot de la Moselle. Ses habitants, s'ils souhaitent se rendre en Allemagne, doivent désormais fournir un test négatif de moins de 48 heures.
Et pas seulement. Les habitants de Moselle doivent également porter une paire de Birkenstock, avoir arrêté l'épilation des aisselles et des mollets depuis plus de 72 heures et être capable de chanter le refrain de Non, non, si je louve ballon de Nena.
Et ça, c'est pas simple.
Alors, tous les 30 ans, les Allemands font une chanson écoutable. Alors, franchement, en 39, ils nous auraient envahi sur ce morceau. Moi, j'aurais vendu du beurre aux Allemands. Oh. Petite pensée pour mon papy la débrouille. Papy César, tu nous as quand même bien mis à l'abri. Bien joué.
Bon, restons sur la Moselle, si vous voulez bien, qui a été classée donc comme territoire à haut risque par l'Allemagne.
Oui, et la Seine-Saint-Denis n'a qu'à bien se tenir. Désormais, en France, le territoire à haut risque, c'est la Moselle. Ça ne devrait pas tarder à être un sujet pour un prochain numéro d'enquête exclusive. Thionville, Metz, Strasbourg, enquête sur ces villes qu'on appelle désormais le cartel de la flamme cuche. Pourquoi la petite ville de Sarreguemines est-elle devenue en quelques semaines l'Eldorado des variants du monde entier et fait désormais trembler la peau d'orange de la chancelière allemande.
Non, Philippe.
Metz, la ville qui ne dort jamais, est-elle devenue un nouveau Bronx? Forbach, l'insoumise, est-elle devenue plus dangereuse que Bagdad? C'est ce soir dans Enquête exclusive.
On a hâte de voir ça. Merci Philippe.
Vous
revenez jeudi?
Oui.
Ouais.
Et demain, j'écoute Valérie Trierweiler.
Mais vous êtes parfait. Je ne sais pas pourquoi Jeanne Charal vous en... j'ai pas fait exprès.
Elle ne viendra jamais sur RTL.
Jamais. C'est pas grave, moi, je n'invite pas les gens qui ne vous aiment pas. Pas déconner.
Bah, ça fait du monde, dis donc.
Oui, c'est vrai. Du coup, on est un peu seul.
C'est très gaffe avec des phrases comme ça.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
On va passer à un art majeur dans un instant. Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est la chanson de Gainsbourg, chanson préférée de Jackie. Vous savez, Jackie qui a travaillé pendant 8 ans avec le grand Serge, mort il y a 30 ans. Il vient nous en parler tout de suite.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de Prévéré Cosma.
La chanson de Prévert, Serge Gainsbourg. Ça fait 30 ans que Serge Gainsbourg s'en est allé, mort chez lui, rue de Verneuil à Paris, d'une crise cardiaque. C'était le 2 mars 91, il avait 62 ans. Bonsoir Jackie, merci Bonsoir. D'être avec nous dans RTL Soir. Jackie, évidemment, c'est Récréa 2, c'est le Club Dorothée, mais c'est aussi Platine 45, c'est les Enfants du Rock.
Oui.
Mais quel est le lien qui vous reliait à Serge Gainsbourg? Racontez-nous.
Le lien qui me reliait à Serge Gainsbourg, c'est que j'étais son attaché de presse pendant, enfin, de 1973 à 1981. Après Jésus-Christ.
Comment vous êtes devenu, comment on devient l'attaché de presse de Serge Gainsbourg? Comment ça s'est passé en 73?
Ben, je travaillais pour une maison de disques qui s'appelait Philips, qui était l'ancêtre de Universal. Et on m'a présenté, le directeur de la promotion qui s'appelait Louis Nucera m'a dit, écoute Serge, cherche un attaché de presse, je vais te présenter, c'est pas sûr que ce soit toi. Il m'a dit, va chez lui, va rue de Verneuil, tout seul, et tu verras. Et j'arrive au de Verneuil, je sonne, et celui qui m'ouvre, c'est Serge Gainsbourg.
Et
moi, à l'époque, j'avais 25 ans, j'étais fan de Serge Gainsbourg. Et bon, on était un peu... Lui était assez timide, mais j'étais complètement tétanisé. Il y a eu des temps morts, on a parlé ensemble pendant une heure.
Vous avez parlé de quoi? Vous vous souvenez ou pas?
Oui, bon, on a parlé surtout musique. Il m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que tu connais des gens dans le showbiz? Je lui ai dit, en deux secondes, je vais lui dire la vérité, je lui ai dit non, je connais personne, parce que c'est vrai, je connaissais personne. Et après, il m'a dit, c'est ça qui m'a plu chez toi, c'est que tu connaissais personne.
Ouais.
Et c'est en partie pour ça que je t'ai engagé.
Il vous a impressionné pendant combien de temps, Serge Gainsbourg?
Tout le temps.
Tout le temps?
Oui, parce qu'il se renouvelait sans arrêt, à tous les niveaux.
Mmh. Hors scène, hors plateau, hors projecteur, il était comment dans la vie?
Ben, il était variable, ça dépendait des jours.
Ça, en général, on dit ça quand quelqu'un a un fichu caractère.
Il avait un super charisme, il avait du caractère.
Ouais.
Mais c'était quelqu'un de très professionnel, de très ponctuel, contrairement aux apparences, qui était très exigeant et qui m'a beaucoup appris dans ce métier.
Mmh. Il disait « mon agressivité cache ma timidité ». Vous êtes d'accord avec
oui,
ça?
Oui, complètement. Ouais. Il était très timide. Oui, il y avait beaucoup de temps mort avec lui. Alors au début, je me disais, je ne comprenais pas trop. Je me disais, il n'a rien à me dire. Mais en fait, on s'est apprivoisé. On s'est apprivoisé, puis ça se passait bien.
Mais vous arrivez, vous êtes un petit mec, vous êtes jeune à ce moment-là.
Ah oui, j'étais très jeune, j'avais 26 ans.
Et il écoute ce que vous lui dites? Parce que le boulot d'attaché de presse, c'est aussi de donner des conseils.
Il m'écoutait, mais il était, quand je faisais des interviews, les journalistes, ils demandaient le nom du journaliste, ils voulaient lire les papiers les autres papiers des journalistes avant l'interview.
Ah, il lisait les papiers écrits avant par le journaliste qu'elle allait rencontrer.
Il lisait non seulement, et il lisait aussi les papiers avant l'apparition.
D'accord.
C'est
ah donc il était très
professionnel. Ah, oui.
Beaucoup dans le contrôle en fait alors. Hein.
C'est pas beaucoup, c'est toujours dans le contrôle.
Toujours dans le contrôle?
Ah oui.
Et il avait des moments chaleureux ou pas?
Ben, il avait que ça, il est extrêmement généreux, c'est quelqu'un de, bien sûr, très chaleureux, mais fallait le connaître, voilà.
À l'époque, il n'est pas encore une immense star, hein, et son album, La Ballade de Melody Nelson, ne marche pas.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne.
Il en souffrait, ça, de pas avoir le succès qu'il estimait mérité à ce moment-là.
Oui, bien sûr, parce que Serge Gainsbourg était une vedette qui ne vendait pas de disques, ce qui est quand même paradoxal. Il vendait des disques qui n'étaient pas de lui, et lui voulait vendre des disques qui étaient de lui, quoi.
C'est-à-dire qu'il vendait les disques, les chansons qu'il avait écrites pour les autres.
Gall, il vendait Six Sex Hanson, il vendait tout ça, la Mikawet, mais pas les siens, et les albums qu'il a sortis, enfin, dont je me suis occupé, entre 73 et 80, sont pour moi et pour beaucoup de gens, ses plus beaux albums, entre Rocker and the Bunker, L'Homme à tête de chou, vu de l'extérieur.
Ouais.
Mais moi, j'avais du mal, j'allais en radio et j'avais du mal, quoi.
Pourquoi on vous disait quoi?
Quand
vous alliez vendre aux programmateurs de radio, on vous disait quoi?
Oui, j'arrivais, parce qu'à l'époque, il y avait des vinyles, donc j'avais avec mes vinyles, mes sacs, comme ça, et j'allais voir. Donc à l'époque, il n'y avait pas de radio libre, donc on faisait RTL, Europe 1 et France Inter, terminé. Alors on me répondait poliment, ce n'est pas la couleur de l'antenne. Donc ce n'est pas la couleur de l'antenne, ça veut dire qu'ils ne passeront jamais.
C'est ça, c'est pas la peine de revenir.
Ouais.
Vous avez évoqué Six Sex Hanson, 79, et ça cartonne.
Le soleil au zénith.
Comment il a accueilli ce succès? Il aimait ça, être enfin connu, reconnu pour sa musique, signer des autographes? C'est quelque chose qui lui plaisait?
Ah
ou
oui,
il était un peu sauvage?
Assez développé quand même. Il aimait signer des autographes. Il n'y avait aucun problème, il était très reconnu. Alors Six Sex Hanson, il l'a écrit en 10 minutes. Il était presque gêné que
en
ça marche.
En 10 minutes?
Oui, il l'a écrit en 10 minutes. C'était pour Les Bronzés, c'était pour le film, film des Bronzés. Oui, il l'a écrit en 10 minutes. Et il était presque gêné de vendre des singles de Six Sex Hanson. Mais en fait, il était content, ça lui faisait un peu d'argent, donc ça allait, quoi.
Il voulait vraiment
vendre ses albums qui ont tous été disques d'or, mais à titre posthume.
Ouais.
Sauf Aux Armes, etc., qui est le dernier album dont je suis occupé. Là, de son vivant, il a été enfin disque d'or.
Et il vous faisait écouter des trucs avant, il disait ça te plaît pas? Vous avez été un peu son conseiller aussi?
Oui, parce qu'il savait, moi j'avais une culture rock, enfin je l'ai toujours, je crois. Donc il me faisait écouter plein de choses. choses, des maquettes, tout ça. Et parfois, il en tenait compte, parfois, il n'en tenait pas compte, mais souvent, il en tenait compte. Mmh.
Et puis, bien sûr, il y a Charlotte et cette chanson magnifique. Charlotte a 12 ans, Lemon Incest. Elle raconte quoi, en fait, cette chanson ?
Bah, c'est une chanson sur l'inceste, mais il n'y avait absolument aucune ambiguïté. En
ça m'était foudrage quand on disait c'est de l'inceste. Si, on dit, si quelqu'un prononce le mot inceste, je pète la figure.
Oui. Oui, oui, mais il n'y avait aucune ambiguïté. C'était juste, voilà, il avait envie de parler de l'inceste. Sa fille a accepté. Et c'était très clair entre Charlotte et lui, quoi.
Ouais.
Bon, Lemon Incest, c'est le jeu de mots. Et moi, je me souviens, à l'époque où je présentais Platine 45, je m'occupais plus de lui, mais enfin, je le voyais assez souvent, je l'invitais à mes émissions. Et il est venu faire le clip de Lemon Incest et ça s'est super bien passé, quoi. C'était, maintenant, je pense qu'il pourrait plus le faire.
Non, il aurait pu le faire.
Bah non.
Alors que Charlotte a dit et dit encore que cette chanson, c'est celle d'un amour infini.
Oui, bien sûr. Il adorait sa fille. Enfin, ses filles.
Pourquoi dans les années 80, Gainsbourg devient Gainsbar ? C'est une stratégie marketing au départ ou c'est vraiment autre chose ?
Non, c'est pas. Non, non. Je crois qu'il a une période où il était très dépressif, où il s'est un peu laissé aller, où il a fait des excès un peu dans tous les domaines. Et il a eu une vraie dépression. Et de Gainsbourg, il est passé à Gainsbar.
Ouais. Vous, à votre époque, il buvait déjà beaucoup ? Il avait besoin de boire pour créer, pour produire
Parfois, il buvait. Parfois, il faisait semblant de boire. Et parfois, il ne buvait pas du tout, dans les journalistes, parce qu'il me disait que, de toute façon, comme j'ai une image de mec qui boit, il trempait ses lèvres, quoi.
Ouais.
Et les journalistes pensaient vraiment... voulait vraiment boire avec lui pendant l'interview. Et moi, je me souviens d'un journaliste de Rock'n'Roll qui avait jamais bu, mais pour lui faire plaisir, il a bu. Et à la fin de l'interview, rue de Verneuil, parce qu'il recevait toujours sur son terrain, il était complètement pété, quoi. C'était... Ouais. Et Serge m'a fait venir en cuisine, je me souviens toute ma vie, il m'a dit, il faisait des Bloody Mary, il me dit, regarde, toi, le Bloody Mary, je vais lui mettre la dose. Il lui a mis la dose, c'était terminé, quoi.
Et vous, il vous faisait boire aussi ou pas quand vous alliez boire
Nous, on buvait des vodka parce qu'on est tous les deux juifs ashkénazes, donc.
Ouais. Justement, Juif Ashkenaz, lui, il venait d'une famille d'immigrés russes. Oui. Il avait porté l'étoile jaune pendant la guerre
Bien
de
sûr,
Sable. Est-ce qu'il en parlait de ça ?
Oui, ça l'a marqué. Il n'était pas très tradit ou pratiquant, on dit plutôt tradit pour les juifs.
Ouais.
Mais il avait une culture juive, il avait un humour juif. Et il a réglé ses comptes avec un album qui s'appelle Rock Around the Bunker.
Ouais.
Ce qui lui a servi de thérapie. Il y a une chanson qui s'appelle SS in Uruguay, enfin tout ça. Qu'il ne faudrait pas faire maintenant d'ailleurs, je pense que ce serait impossible.
Il ne serait pas bien dans notre époque aujourd'hui, Serge Gainsbourg, 30 ans après ?
Pardon ?
Il serait pas bien dans notre époque aujourd'hui, Charles Gainsbourg ?
Si, parce qu'il était, lui, il aurait été bien à toutes les époques, il aurait fait ses chansons. Non, non, l'époque ne le dérangeait pas, peu importe la décennie.
Jackie, qu'est-ce qui vous a appris, Serge Gainsbourg, là ?
Tout.
C'est vrai ?
Il m'a appris la vie, quoi. Il m'a appris comment me comporter avec les gens, il m'a présenté des gens hyper intéressants, il était d'une générosité incroyable, il m'a profondément marqué.
Quel souvenir vous gardez de ce triste 2 mars 1991 ?
Je me souviens que j'étais au sport d'hiver avec ma famille. Quand j'ai appris ça, j'ai pleuré, quoi. Beaucoup de tristesse.
Vous avez gardé des rapports avec lui, même quand vous ne travailliez plus avec lui ?
Oui, parce que comme j'animais des émissions, on a fait un spécial Enfant du Rock avec Antoine Decaune. Et sur Platine 45, je l'invitais régulièrement. Voilà. Oui, on se voyait. Oui, on était très très proches.
Merci beaucoup, Jackie, d'être venu nous parler de votre ancien patron, Serge Gainsbourg.
Oui, c'était mon patron.
Je précise qu'on vous retrouve sur IDF1 tous les jours à 17h30 dans Jackie Lave Plus Propre.
Oui, c'est cela même.
Et si vous le voulez bien, on va se quitter en musique. Pour moi, c'est une de ses plus belles chansons. Elle s'appelle L'Anamour.
Bien sûr.
Ces photos de la cité que j'ai prises à 200 à ça. Maintenant que tu n'es pas là, leur couleur vive à Paris. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur.
C'est la culture de l'actu. Julien Molcou nous emmène tout droit en prison. Et contrairement à Nicolas Sarkozy, vous ne pourrez pas faire appel.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
La culture de l'actu. Bonsoir Julia Molcou.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On en a beaucoup parlé, hein. Nicolas Sarkozy a été condamné hier à un an de prison ferme. Alors ce soir, dans la culture de l'actu, c'est prison.
Oh, 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 faut-il vraiment se laisser emprisonner ?
Et on continue avec Serge Gainsbourg et sa chanson du Forçat. Pour le feuilleton Vidocq, c'était en 66. Alors de nombreux héros de la littérature, totalement imaginaires ou largement inspirés, vivent des expériences d'enfermement et la prison en est le décor par excellence. Le récit de leur expérience permet à leur auteur de dénoncer le pouvoir en place, comme Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné, de dénoncer l'injustice, comme Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte Cristo, ou de rappeler que les conséquences pour les protagonistes sont à la fois physiques et psychiques. Enfermés, ils sont aussi exclus de la société. Mais quand chez Dumas, Edmond Dantès songe au suicide, chez Stendhal c'est l'inverse. Dans Le Rouge et le Noir, la prison est un refuge pour Julien Sorel et dans La Chartreuse de Parme, Fabrice Del Dongo, enfermé dans la tour Farnèse, n'a quant à lui jamais été aussi heureux. Les films de prison sont si nombreux qu'ils forment un territoire à part entière. Là, on entend un extrait de Charlot s'évade, de Charlie Chaplin, film de 1917 qu'on peut considérer comme étant le premier du genre. Les films de prison intéresseront des réalisateurs aussi différents que Billy Wilder ou Robert Bresson, ou encore Laure de Clermont-Tonnerre et son film Nevada, sorti en 2019. Et ils prendront des formes tout aussi diverses, du film historique, La Grande Évasion, à la série Orange is the New Black, au film musical avec les Blues Brothers. Et puis, il y a eu Jacques Audiard et Un prophète en 2009 qui voulait trouver sa place entre le documentaire, trop réel, et la série américaine, selon lui, trop cliché.
On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour. Tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection ?
Je tiendrai le temps qu'il faudra.
Nils Arestrup, hein, c'est déjà en 2009, dis donc. Et les paroliers étant des auteurs comme les autres, les chansons sur la prison, Julia, ou sur les prisonniers, pourraient elles aussi former un genre, hein.
Oui, et là encore, les formes sont libres et variées. Il y a par exemple les chansons de Bagnard, comme celle-ci, The Work Song, adaptée en français par Claude Nougaro en 65.
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs. Ou sinon ça crache des pruneaux au oh, Sing Sing.
Et puis il y a les chansons de ceux qui sont dehors, comme ici avec Yves Duteuil.
En regardant le mur de la prison d'en face, le cœur un peu serré d'être du bon côté. Du côté des autres.
Et puis il y a les chansons de ceux qui entrent en prison. La plus célèbre, on la doit évidemment à Johnny Hallyday sur un texte d'Hugo Frey.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer.
Johnny Hallyday chantera plusieurs chansons sur les thèmes de la délinquance et de l'incarcération. Thème que l'on trouve également dans le rap. Et en 97, Passy fut l'un des premiers rappeurs français à avoir tiré un morceau grand public sur le sujet.
Merci Julia Molcou pour ce délicieux voyage en prison.
Merci à vous Thomas.
Adoucis nos peines. La météo.